be there waiting for.
13h22 minutes, 418-971-1001. Si vous avez des choses à nous dire, on parle de chasse et pêche avec notre ami Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Salut Martin, comment ça va?
Hey, salut vous autres, comment ça va vous autres?
Ça va bien.
Pour de vrai, ça va bien. Toi, t'es-tu encore, dans le bois, là, en train de faire de la chasse ou de la pêche?
Non, on est sorti du bois en termes de chasse, proprement dit, mais en même temps, on y retourne parce que c'est le bon temps de l'année pour faire la prospection pour l'année suivante. Les gens pensent souvent que c'est au printemps qu'on va préparer nos chasses, hein, mais c'est le temps-là d'aller voir, entre autres, pour le cerf de Virginie. Ils sont où les grattés dans le bois? Ils sont où les traces? Et on va prendre notre GPS et on va faire des pinpoints là-dessus. Fait que l'année prochaine, on sait exactement où aller commencer notre prospection. Mais la chasse, à proprement dit, là, elle finit pas mal partout. Les places où ça perdure, là, mais c'est pas mal fini partout, je te dirais.
Hey, Martin, je te pose une question à toi, puis je vais la poser à Pascal par la suite. C'est un article de Radio-Canada qui nous parle de cet individu-là, qui s'appelle Sam Benastic. Si toi, tu t'en vas dans le bois avec une réserve d'à peu près 10 jours de vivre, puis qu'à un moment donné, tu te perds, tu serais-tu capable de vivre 5 semaines en ligne dans le bois avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20? Martin?
Bien, avec les connaissances que nous, on a, oui. Avec les connaissances en survivalisme, en campisme hivernal, en chasse, en pêche, en piégeage, définitivement. Mais quelqu'un qui n'est pas outillé, oublie ça, c'est l'hypothermie qui le guette dans le temps de le dire.
Pascal?
Je pense que je connais un peu de choses, mais pour vrai, je crève. C'est sûr, je meurs. Mais je meurs ou je pleure ou les deux.
Écoute, le gars devait avoir... Le gars devait avoir certaines connaissances, là, je veux pas, il est quand même allé en camping pendant 10 jours, mais il a passé 50 jours dans la nature, puis on vient de le retrouver. Il est sain et sauf.
Ah ben oui, il y en a qui sont... On en a reçu, nous autres, dans l'émission, là, je pense que c'est les... Je ne sais pas s'ils s'appellent les survivalistes, là, ou là, du moins, c'est un groupe au Québec qui donne des formations là-dessus, là, c'est capoté. Là.
Est-ce que c'est Québec Preppers, parce qu'on les connaît très, très bien, puis
non,
sont fait...
Non, c'est un autre groupe, c'était pas eux autres, mais il y en a plein des groupes comme ça, là. Mais c'est complètement mongol, les formations qu'ils peuvent donner. Et il y a de plus en plus d'adeptes, parce que, tu sais, la fameuse théorie du shutdown à plein au-dessus de nous autres, puis il y a beaucoup de conspirationnistes qui en parlent. Fait qu'évidemment, ces cours-là sont pleins, parce que on se dit que demain matin, si on ferme la switch, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? C'est sûr qu'on va, on va avoir une grosse sélection naturelle là, qui va opérer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vont ouais, ça, tu sais, ton Game Boy tombe à off, puis ton téléphone tombe à off, il n'y a plus rien qui existe. Hein. Mais il y a beaucoup de formations, puis pour vrai, ces formations-là, par-dessus le côté là, conspirationniste que tout va shutter off, là, c'est super intéressant. Ça devient des activités familiales qui sont tripantes à aller chercher ces formations-là.
Ben, ça fait partie de mes objectifs 2025, moi, aller faire une petite fin de semaine avec des survivalistes. Je pense qu'Audrey Pinchot voudrait venir avec nous autres aussi, quand j'ai parlé de ça ce matin. Mais écoute, 5 semaines dans le bois avec des températures qui descendent jusqu'à moins 20 degrés. Première affaire que tu fais quand t'es perdu, c'est d'essayer de te trouver un endroit pour camper puis être capable de te chauffer, puis, parce que la nuit, je disais moins 20 quand t'es pas habillé. Là, j'imagine qu'ils s'attendaient pas à des températures aussi intenses que ça. T'as pas le choix. Faut que tu te fasses ton campement rapidement.
Première étape, il faut que tu trouves une place qui va te protéger des éléments, parce que les facteurs de refroidissement éolien, la pluie, etc., c'est ce qui peut avoir raison de toi au bout de la ligne. Fait que si tu peux te cacher du vent, te cacher de la pluie, et essentiellement trouver la façon de te starter un feu pour être capable de grimper d'une couple de degrés Celsius, te réchauffer des roches alentour du feu pour les rentrer dans ton campement pour que ça continue à radier de la chaleur pendant une partie de la nuit, ça peut te sauver, là. Ça peut te sauver le derrière.
Avec les connaissances que j'ai accumulées sur TikTok sur les gars qui se ramassent dans le bois à se faire des petits campements, d'après moi, je devrais m'en sortir.
Tu ris, mais il y a un jeu en ce moment. Tu sais, les genres de petits jeux par rapport de cellulaire, là. Puis il y a plein de publicités de d'autres jeux quand tu te mets à jouer. Puis il y en a un en ce moment que c'est ça, c'est genre une mère avec son enfant, qui là, ils vivent toutes les épouvantes d'une vie. Puis il faut que, de façon stratégique, tu pèses sur les bonnes choses en premier. Exemple, t'es dans une pièce avec son enfant, t'as le foyer qui fonctionne pas, il est brisé, t'as une fenêtre qui est ouverte, puis t'as, je sais pas moi, une autre patente. Mais là, si tu cliques sur le foyer en premier, bien là, la fenêtre qui a pas été réparée va souffler de l'air froid, va fermer ton foyer, ils seront pas dans une bonne position. Ça amène ton cerveau à travailler un petit peu, ça va être quoi? La stratégie de façon efficace.
Oui, exact.
Ça replace les priorités aux bonnes places, mettons.
Ouais. Hey, parlant de priorité, on parle du lobby anti-armes à feu qui ressort pour l'anniversaire de Polly, je me souviens.
Oui, puis tu sais, j'ai une très bonne compréhension, une sensibilité face à cette vague-là qui existe à tous les ans à l'approche du triste anniversaire de la Polytechnique, du massacre de la Polytechnique. Et tu sais, en tout temps, toutes les fois qu'on en parle, On porte nos condoléances aux familles qui ont perdu un être cher, aux gens qui sont encore en vie et qui ont vécu des traumatismes incroyables. Et c'est sûr qu'à l'approche de ce triste anniversaire-là, on ressort souvent énormément de verbatim anti-âme. Puis, malheureusement, souvent, il est mal ciblé. Puisque, je te donne un exemple, là, Nathalie Provost de Police se souvient. Elles sont deux là-dedans, là, Eddie Raja et Nathalie Provost. Vient de sortir la semaine dernière avec une allocution dans laquelle elle dit littéralement c'est pas après les armes criminalisées qu'on en a. On en a après ce qui nous concerne, ce sont les propriétaires légitimes d'armes à feu. Alors là, on énonce quelque chose d'aussi grave que ça. Au moment où est-ce qu'on vient de passer au travers de l'établissement d'une loi, la C-21, dans laquelle on a reçu des témoins experts au Conseil sur la sécurité, donc le CQ Meeting qu'on appellera à Ottawa, dans lequel on a été nous-mêmes comme experts conseil, et que l'ensemble des forces de l'ordre, l'ensemble des urgentologues, des psychologues, etc., qui ont été appelés à témoigner, ont été très, très, très précis sur un grand terme. 99 % des armes qui sont retrouvées sur les lieux d'homicide, de crimes, de tentatives de suicide, etc., sont smugglées, sont des armes illégalement importées de l'autre bord de la frontière ou obtenues de manière illégale. Et là, on a une citation comme ça d'un groupe avec lequel on est excessivement sympathique et on aimerait travailler dans le même sens. Et puis je vais faire un parallèle très rapide. Vous avez de l'eau qui coule du plafond chez vous. Vous allez essayer de trouver le tuyau qui fuit pour aller à la source et régler ça. On n'ira pas fermer la valve d'eau au village. Hein. On va identifier On connaît le problème. Les forces de l'ordre nous présentent le fait qu'il y a un manque d'effectifs au niveau des services frontaliers. On a la frontière la plus longue, la frontière limitrophe la plus longue entre deux pays dans tout le monde entier. La frontière la moins surveillée. Les services frontaliers ont besoin d'aide. Les services d'enquête ont besoin d'aide. Les opérations comme Centaure, là, qui réhabilitent réellement des criminalisés armés dans les rues et qui sont excessivement efficaces, ont besoin d'argent. La santé mentale a besoin d'argent. On a besoin d'argent dans nos forces de l'ordre, dans la surveillance et dans la prévention pour justement être capable de canaliser cette criminalité armée-là. Et on veut se battre dans le même sens. Les propriétaires légitimes d'armes à feu, ils crient haut et fort qu'on devrait avoir des moyens qui resserrent, par exemple, la vérification des antécédents judiciaires avant l'obtention d'un permis de possession ou acquisition d'armes à feu, avant de pouvoir aller acheter un chargeur, aller acheter une carabine, aller acheter un fusil. On est les premiers, on est la tête de ligne dans le contrôle. Le processus canadien pour l'obtention d'un permis de possession et acquisition d'armes à feu, c'est le processus administratif le plus lourd au Canada, plus lourd qu'un divorce ou qu'un mariage ou qu'une acquisition d'entreprise. Ça, c'est un fait établi parce que les chasseurs en première ligne ont cette volonté-là de protéger ce qu'ils connaissent comme étant dangereux, si mal utilisé ou si mal intentionné, l'arme à feu. Et on voudrait être dans les mêmes rangs que les gens de police se souviennent, etc., et mettre des efforts aux bons endroits. Prendre les dizaines et les dizaines de millions de dollars qui viennent d'être investis dans l'investiture de la C-21 ou le 71 millions de dollars qui est déjà dépensé dans le programme de rachat d'armes à feu qui ont été catalogués comme illégales au Canada quand il n'y a pas encore une arme qui a été rachetée. Prendre tout ça puis mettre ces budgets-là aux endroits où est-ce que ça fesse. Services frontaliers, services de police, services d'enquête, prévention, surveillance. Appliquer les lois qui sont en place. C'est-à-dire qu'on a tout un processus judiciaire pour la protection de l'obtention d'armes à feu au Québec, mais il est bourré de failles. Bissonnette en est un exemple à Québec, qui a été capable d'aller chercher des armes. Il a passé au travers du système. On a déjà des lois. Et souvent, ça fait sourire certains, mais je répète comme
Bissonnette,
je l'ai...
Bissonnette a passé au travers du système, là, mais tu sais, plus j'ai lu sur cette histoire-là, plus je suis convaincu qu'il y a eu une faille dans son entourage. Parce que tu sais, Martin, si tu files pas, puis tu m'en fais part que tu files pas, moi, j'ai un devoir de citoyen. OK, Martin, là, je crains pour sa vie, j'ai l'impression qu'il veut en finir avec la vie. J'ai un devoir de citoyen d'appeler la police pour dire « ce gars-là a des armes à feu chez lui » et visiblement, entre les deux oreilles, ça va pas bien. Dans le cas d'Alexandre Bissonnette, pendant le procès, puis des amis aussi qui ont communiqué avec moi pour me dire comment il était quand il était à job, c'était le gars le plus bizarre de la Terre, puis il filait pas, puis il disait des affaires qui avaient pas de crise de bon sens, puis il n'y a pas personne qui a flagué, alors que c'est un devoir de citoyen de le faire de flaguer.
C'est excessivement lourd de sens ce que tu dis là parce que ça devrait être la ligne de front, la ligne de défense de front. Et ça, on devrait investir beaucoup d'argent dans la prévention par l'éducation au niveau élémentaire et au niveau secondaire parce que tu vas l'aborder d'une façon différente parce que le cerveau et les émotions n'ont pas évolué au même stade au primaire pour au secondaire. Et apprendre aux enfants comment détecter « mon ami va pas bien ». à qui je dois m'adresser pour... Tu sais, une saisie préventive d'armes à feu, là, je l'ai faite, moi, personnellement, avec des amis. Écoute, buddy, le temps que ça se règle avec ta blonde ou le temps que ça se règle avec la mort de ton père ou le ci ou le ça, veux-tu que je vais entreposer tes armes à feu chez nous?
Comment ça a été pris?
Oui, gratuitement, je vais te les nettoyer, je vais te les réviser, ils vont être là. Puis, mec, tu te files bien, puis qu'on juge ensemble que ça va, je vais te les redonner. L'autre option que tu as, c'est que j'appelle la SQ, puis ils font une saisie préventive. Là, tu vas avoir de la misère à récupérer tes armes à feu.
OK, t'es allé dans un moyen très gentil avec le nettoyage et tout, puis t'es aussi été dans le moyen du « je te donne pas de choix ». Le seul choix que je te donne, c'est que ce soit moi ou la police. Comment ça a été reçu? Est-ce que c'est encore des amis? Est-ce que c'est des gens qui, à retardement, ont compris? Est-ce que ça a été un petit peu chaotique au début? Ou...
Non. La première intervention que j'ai faite de cette façon-là est la plus probante. L'ami que je ne nommerai pas est parti à pleurer, mais profondément. Je venais tout juste de lui prouver que quelqu'un l'aimait suffisamment d'amour pour le protéger, protéger les siens et prendre action. Puis ça, là, ça, c'est la façon de le voir. Il n'y en a pas d'autre façon de le voir. On protège des vies humaines avec une ligne de front qui est une ligne émotive. Observez autour de vous. Si ça ne va pas bien, il y a plusieurs façons d'agir. Et si vous ne réussissez pas à la douce, il y a les forces de l'ordre qui peuvent vous aider par toutes sortes de moyens. Tu sais, des lignes comme, si je ne me trompe pas, c'est info-violence conjugale. Il y a plein de lignes comme ça. Même si ce n'est pas vous qui subissez la violence conjugale, je l'ai fait dans le passé, moi. Prendre le téléphone, appeler info-violence conjugale. Salut, je veux comprendre le cycle de la violence conjugale, le cycle du narcissisme, parce que j'ai un ami que je dois aider puis je suis mal outillé. Ça, c'est l'enseignement qu'on devrait financer en prévention. Il y a un terme médical qui dit la prophylaxie. On va upfront, en amont, surveiller tout ce qui pourrait mal tourner par la suite, puis on réussit à éviter des diagnostics de cancer et des trucs comme ça. On devrait mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, en parallèle avec les groupes comme Police se souvient, etc., pour prévenir et aller fesser où est-ce que ça fait mal. Les gangs criminalisés, l'importation d'armes et surtout, les jeunes enfants, pour les outiller à savoir comment j'agis quand je détecte quelque chose comme ça dans mon entourage.
Si jamais la personne t'avait dit non, ton ami,
là,
tu le faisais pour vrai, t'aurais perdu cette amitié-là. Hey, Martin, ça me tente plus trop de t'entendre parler. Je vais devenir biaisé parce que je t'apprécie de plus en plus un petit peu trop comme personne. Parce que je préfère garder ma neutralité puis te poser des questions plates des fois.
Ouais. Elle t'aime trop.
Oui, c'est un problème.
Mais tu es habitué de te le faire dire par les femmes, là. Martin, je t'aime trop.
Non, mais.
Ma blonde, elle m'a dit que j'avais plus le droit de répondre à ces questions-là à la radio.
Oui, c'est ça.
Yannick, t'aurais-tu fait pareil? Parce que c'est tough, pareil, là.
Ouais, moi, je connais ce règlement-là grâce à Martin, qui est mon collaborateur depuis des années et des années. Quand il y a quelqu'un qui file pas et il y a des armes à feu, tu peux effectivement l'approcher pour lui expliquer. Oui. Je veux dire, si tu l'aimes, ton ami, là, tu sais qu'il te dit qu'il veut en finir avec la vie, la première des affaires à faire, c'est d'essayer de sauver la vie.
Mettons, de façon très, très claire comme ça, oui. Mais si c'est pas clair, puis là, tu sais, on parlait tantôt de séparation, de
je vais
pas bien.
Moi, j'ai beaucoup de cabochons autour de moi.
Je me demande si à un moment donné, j'aurais pas un peu de difficulté. Ouais. Ça me parle beaucoup, façon, votre discours en ce moment.
Il y a une autre façon, d'une fois, de parler à ces gens-là, de dire, écoute, t'es en séparation. Quand tu t'es marié, ça allait bien. T'es en train de te séparer. T'as des armes à feu. Il y a des choses que tu veux d'elle, il y a des choses qu'elle veut de toi, ou vice-versa. Ça peut être elle aussi, hein, je l'ai vécu. Elle a des armes à feu. Lui, il décide d'être emmerdeur un peu dans le dossier. Tu as deux choix. Tu me les remets volontairement pour que je les protège pendant ce parcours-là, ou ben non, elle ou lui va porter plainte contre toi dans le but de les faire enlever parce qu'elle sait qu'elle va t'atteindre avec ça. Fait que t'as le choix, là, en quelque part. Tu as un ami qui t'offre une sortie « easy », puis on fait une déclaration. On appelle les gens de la SQ, on les fait venir à la maison, puis on fait une déposition. On leur demande de faire une déposition. Ils vont nous donner un petit coupon carré là, avec un numéro de constat dessus. Ils vont avoir constaté qu'il y a un citoyen qui a saisi préventivement les armes de l'autre. De cette façon-là, c'est légal. Si jamais ça va en cours avec monsieur ou madame, bien, il y a une procédure complète qui a été faite. Puis, je vais dire comme Yannick, au bout de la ligne, tu as peut-être sauvé la vie de ton ami.
Exact. Mon ami Aventure Chasse et Pêche, on vous retrouve à quel endroit sur les internets?
Écoute, acpnation.com, c'est notre site principal tous les jeudis soirs, 21h, sur les ondes de Télémag, en même temps sur YouTube et etc. Mais plus particulièrement, des soirs comme ce soir, le jeudi soir, on est en live sur l'ensemble de nos plateformes et sur l'aventurechassepêche.com. Et ce soir, on parle justement précisément de la C21. On a une couple de nouvelles ou de nouveautés aussi pour vous autres. Là. J'ai une boîte de nouveautés à côté de moi, très attendue pour le temps des fêtes. Là. Mais ce soir, sujet principal, invité Christian à Machine Gun Case qui est avec nous autres, parler de C21 puis tout ce qui se passe dans cette guerre idéologique-là.
Martin, peux-tu faire quelque chose pour moi?
Je vais y dire, oui.
Dis salut à Kate pour moi, OK?
Pas de trouble.
Dis, bon. C'est Yannick.
Dis, c'est Yannick.
Dis pas, c'est Marceau. Dis, c'est Yannick.
Oh!
Il y a pas de trouble.
Oh, salut, mon chum!
Salut, gang!
On t'en reparle la semaine prochaine, 13h38. Qu'est-ce qu'il y a? On a le droit de dire salut aux blondes de nos amis?
Oui, absolument. C'est juste que là, on est passé de dit que c'est Marceau à dit que c'est Yannick.
Exact.